Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre qui vient de sortir un livre qui s'appelle Unique et dont le sous-titre est « Et si la clé du monde de demain, c'était nous ». Je suis Joanna Kellen, opératrice de Talentoscope, l'accélérateur de développement personnel et collectif pour des groupes de 50 à 500 personnes, et encore je dis 500, c'est pour mettre une limite. Rejoignons tout de suite Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour Joanna.
Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler aujourd'hui de singularité. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes ?
En quelques minutes, je suis chef d'entreprise. Je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Talentsoft, qui propose une solution logicielle de gestion des talents. Je suis entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur. Ça fait 18 ans que je suis entrepreneur, c'est ma troisième entreprise. À côté de ça, j'écris aussi quelques bouquins, je tiens un blog. Donc, je ne me présenterai pas comme un slasher parce que, au contraire, je ne diversifie pas mes activités, mais obsessionnellement, j'en poursuis qu'une, qui est vraiment de contribuer au mieux à bouleverser un petit peu le marché du travail et à aider chacun à révéler son potentiel.
Comment ça t'est venu, ça ? Parce que là, tu décris un peu ta mission.
Oui, mais ça m'est venu assez simplement parce que finalement, on a tous grandi dans un milieu X ou Y. Il se trouve que le milieu dans lequel j'ai grandi, moi, était empreint de pas mal de souffrances liées au monde du travail, liées au management. Et c'est vrai que ma famille, les amis de ma famille, un petit peu en tout cas tout mon environnement relationnel, souffrait beaucoup au travail, et il y avait cette libération du vendredi soir, cette boule au ventre du dimanche soir 18h, cette dernière semaine de vacances pourrie en pensant à la rentrée. Et c'est vrai qu'au moment où je me suis retrouvé à me dire « Tiens, qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie ?», ça n'était pas une option que d'imaginer que j'allais pendant 10 heures par jour, 45 ans, subir ça et peut-être attendre mes 65 ans pour commencer à vivre. Donc, en réalité, j'ai commencé à le faire égoïstement en me disant « je ne veux pas de cette expérience ». Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je n'avais pas non plus envie que les autres continuent à avoir cette expérience. Et je me suis dit « ok, ça marche pour moi et j'ai envie que ça marche pour les autres ».
Donc, tu l'as vécu à travers les autres. Toi, tu n'as jamais été salarié ?
Jamais. D'accord. J'ai toujours été entrepreneur parce qu'à l'époque, il faut quand même savoir, donc là c'est tout de suite la seconde où je vais apparaître comme vieux, mais il faut savoir que j'ai créé ma première entreprise en 2001. Et c'est vrai qu'en 2001, c'était à mon avis moins simple aujourd'hui de créer une entreprise, c'est surtout moins hype, c'était moins à la mode. Mais à l'époque, alors c'était peut-être de la mégalo, c'était peut-être de la clairvoyance, j'en sais rien, je ne voyais pas le salariat comme une option qui me permettrait d'être moi au travail et d'avoir une expérience qui soit alignée à ce que je souhaitais faire de ma vie. Et c'était moins sur la cause à défendre elle-même que la qualité des relations, la qualité de la vie que j'aurais au travail. Je me suis dit, la seule façon d'avoir une expérience qui me convienne, c'est que je la design et que j'en sois le seul responsable.
Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Unique. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre ? Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message ? Pourquoi tout d'un coup tu t'es dit il faut que je me mette sur un bureau et que j'écrive ?
Et que je gâche 9 mois de mes soirées, de mes week-ends.
En réalité, pourquoi c'est si douloureux d'écrire ?
Oui, c'est douloureux parce que on est obligé, c'est un exercice assez solitaire. C'est un exercice où on doit aller puiser des choses à l'intérieur de soi, assez profonde, et des choses qui font pas toujours plaisir finalement, et c'est aussi énormément de doutes. C'est le syndrome de la page blanche, on démarre de rien et tout d'un coup on aboutit à 300 pages. Ça combine beaucoup de choses qui peuvent faire souffrir un petit peu. Il y a des moments hallucinants de joie intense quand on touche quelque chose du doigt. Ce livre a été très particulier pour moi parce que, comme je le dis, c'est assez intime, mais j'ai jamais suivi de psychothérapie ou de démarche de ce type-là, mais c'est vrai que ce livre-là fait un peu office de psychothérapie, parce que quand vous écrivez, je vais répondre à ta question, un livre qui invite chacun finalement à trouver ce qui le rend singulier, ce qui fait de lui un individu unique au monde, et qu'on invite les gens à, sur la base de cette découverte, bâtir une vie qui soit vraiment la leur, et qui soit pas celle d'un autre, qui soit pas celle dictée par la norme sociale, on n'a pas le droit de mentir aux autres et on n'a pas le droit de ne pas être aligné avec ce que l'on dit. Et donc, on est obligé, d'une part, d'aller vraiment creuser à l'intérieur de soi pour savoir si ce que l'on dit est vrai, pour soi d'abord. Et ensuite, on doit changer les comportements. Une fois qu'on s'est aperçu de quelque chose qui comptait vraiment pour soi, il y a des choses qu'on ne peut plus faire après. C'est comme si on a vu, on a pris conscience de quelque chose et on doit le changer. Et c'est vrai que ce livre, en 9 mois, a changé pas mal de choses, même dans la façon dont je régis ma vie ou des relations ou autres, parce que je suis plus clair que jamais sur qui je suis et ce que j'ai envie de faire. Et finalement, ce livre ne vise qu'à une chose, c'est permettre aux gens d'aligner ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de faire. Et le pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est que puisque mon travail, c'est quand même d'aider à faire ça, je me suis rendu compte qu'on crée beaucoup de souffrance, en fait, à parler de ça toute la journée en entreprise, parce que quand on dit à des managers, soyez transparents, quand on dit à des collaborateurs, collaborez, travaillez en équipe, quand on dit à des RH, cessez d'être des administrateurs du personnel, mais au contraire, designez des expériences de travail, c'est très bien de dire tout ça aux gens. Je suis persuadé que c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce que les gens, que ce soit les collaborateurs, les managers ou les RH, ont les moyens de le faire? Qu'est-ce qui les a aidés dans leur vie? Que ce soit l'école, que ce soit le monde du travail ou même la société en général, qu'est-ce qui leur permet aujourd'hui de faire ça? Rien. Et donc, quelque part, je me suis dit, c'est pas juste, j'ai envie d'écrire un livre. À l'époque, je voulais écrire un livre sur le futur du travail qui retranscrivait un petit peu tout ce que je fais dans mon cadre professionnel. Je me suis dit, tu peux pas écrire ça parce qu'en réalité, c'est pas le bon sujet. Le bon sujet, c'est et comment on s'y prendrait pour que toutes ces injonctions de l'entreprise libérée et l'autre, à un moment donné, soit possible et puisse vraiment être adressé par les gens. Donc, ça a été une véritable prise de conscience d'abord quand j'ai commencé à écrire le bouquin sur le futur du travail que je n'avais pas le droit de l'écrire, ça, parce qu'il vaudrait mieux que j'écrive un bouquin sur comment on s'y prendrait pour y arriver. Et c'est de là qu'est née l'idée de unique, parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas changer le monde du travail sans changer l'éducation. On ne pouvait pas changer le monde du travail sans bien comprendre qu'est-ce qui allait se passer avec la technologie et les technologies exponentielles comme l'intelligence artificielle et comment on pouvait s'en servir. Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire pour les relations managériales, pour l'entreprise en général. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir un phénomène patchwork dans le livre, mais en fait, tout cela est régi par un seul but, c'est vraiment de pouvoir être soi dans la vie, au travail et de poursuivre la cause qui compte pour nous.
Moi, je ne l'ai pas ressenti comme un patchwork, je l'ai ressenti vraiment comme une synthèse de plein de choses qui sont importantes pour comprendre comment on fonctionne, parce que tu parles des talents, du fonctionnement, de la créativité, tu parles aussi de la relation à la technologie. Mais ce qui me vient tout de suite, c'est un peu la fin, c'est est-ce que ce n'est pas risqué d'exprimer sa singularité, sachant que j'ai parfois l'impression, et je fais beaucoup d'interviews, que le monde du travail n'accueille pas encore la diversité à bras ouverts. Est-ce qu'il y a un risque à entamer ce chemin qu'on n'a pas encore décrit?
Oui. Vraiment, la réponse sincère, c'est oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit la difficulté pour ces travailleurs que l'on dit atypiques d'exister dans le monde du travail, atypiques, tout le long de cette discussion, on pourrait faire le parallèle entre l'école et l'entreprise. À l'école, vous aurez les mêmes problèmes que vous soyez autiste ou surdoué. Dès qu'on n'est pas dans la moyenne, dans la norme, on a des problèmes. En entreprise, dès qu'on ne suit pas les chemins balisés des quelques écoles de commerce et universités qui sont reconnues par le monde du travail, on a des problèmes. Et dès qu'on est pâtissier, qu'on veut devenir commercial ou qu'on est commercial et qu'on veut devenir pâtissier, on a des problèmes. Et ça, il suffit d'aller à la FNAC pour le comprendre. Il y a quasiment autant de catégories musicales qu'il y a d'artistes. On aime classer les choses, on aime ranger les choses. Et ça, c'est très français. C'est pas vrai partout dans le monde. Je pense que le marché du travail aujourd'hui refuse les gens atypiques. D'ailleurs, on ne parle pas de gens singuliers, on parle de gens typiques. Mais justement, ce livre n'a qu'un but, c'est de provoquer l'idée que cessez d'être différent, soyez unique. Quand on se sent différent, c'est Forrest Gump. Quand le docteur dit à la mère de Forrest Gump, votre fils est différent, Madame Gump. On sent bien que c'est pas une qualité, c'est pas un atout. Et pour autant, dès qu'on se sent pas différent mais se sent unique, là, on se sent mieux. Et en fait, l'invitation, c'est que si on fait vraiment valoir sa singularité, ce qui nous rend unique, on a plus de chances d'être reconnu dans l'entreprise et dans le monde du travail en général et d'avoir un chemin qui nous corresponde. Parce que aujourd'hui, la complexité des problèmes, le rythme d'apparition des problèmes, les disruptions sans cesse continuelles du marché du travail font que on a besoin de toutes les énergies et on a besoin de solutions nouvelles à des problèmes nouveaux. Et tant qu'on reste dans le scope moyen de compétences, le scope moyen d'école et dans finalement ce que l'on connaît déjà, ce ne sont pas avec les parcours classiques et avec des clones en entreprise que l'on va régler des problèmes qui sont complètement nouveaux. On a besoin au contraire de gens qui vont penser différemment et dont l'alliance, la combinaison générera l'innovation. Il y a un TED qui dit ça, c'est l'innovation, c'est des idées qui font l'amour. Il y a un livre qui s'appelle La forêt vierge. Et qui explique que justement, l'innovation vient de la diversité, donc d'où la métaphore de la forêt vierge. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison, c'est dangereux d'être singulier, mais c'est une voie de salut pour les entreprises, et je crois qu'elles sont en train, certaines sont en train d'en prendre conscience, sont en train de communiquer, d'écrire des livres, de communiquer au travers de conférences, et toutes celles qui pensent que c'est dangereux vont devoir changer. Parce que si elles ne veulent pas devenir le Nokia ou le Kodak des années 2020, elles ont intérêt à embrasser, à accueillir les gens qu'elles considèrent aujourd'hui comme des gens différents. J'en suis persuadé.
Mais pourquoi t'en es persuadé? Quel est le risque pour ces entreprises?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont en danger, puisque le monde va considérablement changer. Je le vois dans mon industrie. Tous les jours, il y a des nouveaux acteurs. Et ça, c'est très bien décrit dans un livre qui s'appelle Le dilemme de l'innovateur. C'est que, grosso modo, le marché du travail et les clients refusent ce qui vient de sortir, parce qu'en général, fonctionnellement, c'est trop peu satisfaisant, et vont chercher des acteurs traditionnels. Mais tout d'un coup, tous ces jeunes acteurs accumulent des fonctionnalités, accumulent de l'expérience, et tout d'un coup, tout le monde a envie d'avoir ça parce que c'est assez. Il y a le côté, on a un seuil qui est passé, c'est ce qu'on appelle le tipping point des technologies exponentielles. Et pourquoi on parle de technologie exponentielle? Parce que tout d'un coup, il y a une courbe, un encéphalogramme plat où il ne se passe rien, et tout d'un coup, un acteur qui pendant 5 ans n'a rien fait devient coté en bourse à coups de milliards. Et ça, c'est la preuve que toutes les entreprises qui ne bougent pas donnent simplement mandat à tous ces jeunes acteurs qui arrivent sur le marché un jour de les faire mourir en fait. Et donc la question pour les entreprises aujourd'hui, c'est comment se réinventer? Ce que j'ai adoré dans le parcours d'Apple, c'est que Steve Jobs était capable de tuer un produit avec un autre, voyant le vent tourner. Il a quelque part tué l'iPod avec l'iPhone, sauf qu'il avait compris que de toute façon, ça arriverait. Et ce que je trouve fascinant, c'est que c'est un bon exemple de savoir se remettre en cause et même tuer ses propres solutions. Désolé pour ce champ lexical très belliqueux pour un podcast, hein, mourir, tuer, je suis navré, je suis pas un garçon pessimiste ou morbide. Mais en revanche, je crois vraiment que toutes celles qui pensent jusqu'ici tout va bien vont avoir de sérieux problèmes dans la décennie à venir parce que oui, les technologies exponentielles vont changer probablement à peu près tout sur le monde du travail et dans notre société. Donc, il vaut mieux aujourd'hui se préparer à ce qui va se passer demain et intelligemment, sans faire table rase du passé et tout d'un coup tourner le dos à tous ses clients, comprendre qu'il va falloir innover, il va falloir faire différemment. Et donc, on revient au livre et à la singularité. Accueillir la singularité et faire en sorte qu'il y ait des grands changements opérés. Le premier changement dans les entreprises, c'est stop à l'élitisme. Les revues de talent qui consistent à donner 80% des richesses de l'entreprise à 15 ou 20% de leurs collaborateurs, ça ne va plus être possible. Parce qu'on va avoir besoin de toutes les énergies, comme on le voit dans Le Seigneur des Anneaux avec la communauté de l'anneau, comme on le voit dans la Justice League, où la baseline, c'est « Vous ne sauverez pas le monde seul ». Je trouve que ce sont des bonnes illustrations sociétales où même les super-héros savent qu'ils ne peuvent plus sauver le monde seul et qu'ils vont avoir besoin de l'énergie de chacun. Mais chacun dans l'entreprise, c'est 100% des collaborateurs, c'est pas 20. Et 100% des collaborateurs, c'est justement la diversité, les forces et faiblesses de chacun, qui en fonction de chaque situation et de chaque problème, à un moment donné, on peut tous devenir le héros du moment, parce à cause de notre bizarrerie, à cause de notre différence, mais en réalité, à cause de notre singularité. J'en suis. Voilà pourquoi j'en suis persuadé, parce que je manage quand même une boîte de 600 personnes qui se trouve quand même être leader sur son domaine, et je peux t'assurer qu'à chaque fois que je suis frileux, que j'ai peur, que je veux, comme disait Henry Ford, John Ford et avant Steve Jobs, quand il ne faut pas écouter les clients, parce que c'est Henry Ford qui dit ça, parce qu'il aurait fait juste des chevaux qui couraient plus vite. Quand ils disaient ça tous les deux, c'est dans l'idée que si on ne fait qu'écouter les clients, on risque de ne faire que poursuivre le passé aussi longtemps que possible, jusqu'au moment où le passé connaît une rupture et il y a un saut énorme entre tout d'un coup le passé et le futur. Il y a un saut quantique qui s'opère et c'est déjà la pub, c'est déjà demain. Et ben Facebook arrive et change complètement la donne de la communication. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ça, et puis c'est arrivé 15 fois là, hein, sur ces 20 dernières années, on se dit qu'effectivement, pour accueillir le changement, ben, il faut des gens qui changent. Hein. Je ne peux pas te le dire autrement.
Alors, cette singularité, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi, la singularité? Chacun de nous est unique, mais comment on découvre notre uniqueness? Je ne sais pas comment on dit, notre singularité, justement.
Oui, c'est pour ça que unicité, ça, c'est pas très joli. Donc, c'est vrai que singularité, c'est mieux. Moi, je l'ai défini. Alors, tu sais, c'est pas pour rien que depuis des millénaires, on essaie de définir l'intelligence, l'être, que ce soit les Grecs, les hindouistes ou autres. Bon, j'ai pas de prétention sur le sujet, je ne suis même pas philosophe. Donc moi, justement, c'est pour ça que je m'appuie aussi sur un peu de culture pour revendiquer qui je suis. Mais j'ai quand même un avis sur la question. Et c'est vrai que la singularité, je la définis en quatre pans. C'est d'abord la façon dont on fonctionne. On a tous des fonctionnements différents et on peut les assumer. C'est OK.
C'est quoi? Tu peux me donner un exemple de fonctionnement? Qu'est-ce que tu entends par fonctionnement?
Un fonctionnement, par exemple, c'est le rapport au risque, c'est le rapport à la créativité. C'est moi, personnellement, à chaque fois que je vois un risque à prendre, ça m'intéresse beaucoup plus parce que j'ai une âme de joueur. J'ai pas beaucoup d'addiction, mais c'est vrai que je pourrais être addict au jeu. Et donc, évidemment, dès que je vois un risque à prendre, ça m'intéresse. Ça me caractérise. En général, beaucoup de gens ont peur de ça. C'est propre à mon fonctionnement. Le fait d'être heureux de passer mon vendredi soir avec des amis ou plutôt seul parce que ma façon de me récupérer de ma semaine est différente d'un autre. Fonctionnement, c'est tout, ces micro-choix qu'on fait dans notre vie de tous les jours et qui font que tu n'auras jamais deux individus qui vont vivre de la même façon. Ensuite, c'est tes aspirations. Là aussi, ce qui est fou, c'est que on ne nous aide pas à découvrir et à assumer nos aspirations. L'aspiration à l'école, c'est il faut avoir de bonnes notes. Pourquoi? Pour faire de bonnes études. Pourquoi? Pour avoir un bon métier. Pourquoi? Gagner plein d'argent. OK. Donc, on a tous la même aspiration. Alors, c'est gagner plein d'argent. Voilà. Donc, pourquoi? Non. Comme je cite dans le livre, mais c'est vrai que j'avais un petit cousin qui voulait être pâtissier, je peux t'assurer. Et pourtant, je n'étais pas d'une famille de psychopathes, de tyrans. Mais quand ce petit cousin pâtissier disait qu'il voulait être pâtissier, donc suivre un cursus qui ne conduirait pas au bac à l'époque C ou je ne sais quoi, il était mal vu parce qu'on disait mais non, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est que tu aies un super bac pour faire des super études. Non, lui, ses aspirations, elles étaient autour de la pâtisserie. Et alors évidemment, après, tu as du bol, tu as Top Chef qui arrive, Master Chef qui arrive, et tout d'un coup, ça devient super à la mode d'être pâtissier et coup de bol. Mais tu vois, c'est absurde de renoncer à ses aspirations parce qu'à un moment donné, la société ne l'a pas valorisé. Alors que 15 ans après, si tu n'es pas cuisinier, à la limite, tu es presque bizarre. Ensuite, c'est découvrir ses talents. On le voit bien. Là, il se trouve que je fréquente... moi, mes meilleurs amis, on vient d'avoir un petit qui a 2 ans et quelques aujourd'hui. Et c'est fou parce que un enfant de 2 ans, tu vois assez clairement déjà, il a des aptitudes. Il y a des choses qui sont innées. Dieu merci, on peut travailler des choses qui ne sont pas innées et travailler des talents qui ne sont pas innés. Mais c'est intéressant aussi, tout petit, de voir en quoi on est meilleur qu'un autre. Quand tu vois effectivement que certains, ce qui n'était pas du tout mon cas, quand ils font du sport, tu les vois manier un ballon de foot, de basket, je ne sais pas quoi, tu vois bien qu'en tout cas, ils ont des aptitudes sportives que moi, par exemple, je n'avais pas trop à l'école. Ou à l'inverse, tu vois des gamins qui finissent leur dictée en 3 minutes quand les autres prennent 3 heures et ont le meilleur résultat. C'est important de voir en quoi on est bon. Donc, tu as le côté qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on sait faire. Et tout ça nous servira dans notre vie ensuite d'adulte. Et la dernière chose que je valorise énormément, c'est le prisme personnel. C'est notre façon de voir le monde. On a tous, c'est comme si on était dans un appareil photo et qu'on était tous placés à un endroit différent. Et donc, on a tous un angle d'observation du monde qui est unique intrinsèquement, puisque personne, physiquement, à un moment donné, ne peut être exactement à la même place que toi. Hier, j'étais à un concert, on était tous ensemble, et je peux t'assurer d'une chose, personne n'a vu la même chose, parce qu'on n'était pas placé au même endroit, parce qu'on n'a pas les mêmes qualités auditives, les mêmes qualités visuelles, les mêmes qualités musicales. Howard Gardner qui décrit de nombreuses formes d'intelligence, il y a une intelligence musicale, tout le monde n'a pas la même. Tout ça crée une vision du monde, c'est ce que disait Besson, qui appréciait énormément la photographie et qui parlait de Thierry Arbogast en disant ce qu'il appréciait lui chez les directeurs photographiques, c'est que un cadre, c'est une vision du monde. Et il appréciait la vision du monde de Thierry Arbogast. Mais en fait, on a tous une vision du monde et personne ne valorise ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu vois des gamins aujourd'hui qui créent des startups, en réalité, pas tout, hein. Mais beaucoup de startups sont créées pour régler un problème qui a agacé le ou les fondateurs. Et pourquoi ça les a agacés? Bah, ils ont vu la même chose que tout le monde, sauf que eux, ce truc-là, ils ne le supportent pas. Ils veulent apporter une solution là où tous les autres sont passés à côté, mais ça ne les a pas dérangés. C'est ça le prisme personnel, c'est quelque chose que l'on voit et que l'on voit différemment. Et bah, quand je te décris tout ça, le fonctionnement, l'aspiration, le talent, le prisme personnel, je te décris la singularité, tu comprends bien à partir de ce moment-là qu'il n'y a pas deux individus au monde qui se ressembleront. Et donc, explique-moi pourquoi l'école va nous demander à tous de suivre les mêmes horaires, assis derrière les mêmes pupitres, à recevoir le même programme. C'est une aberration.
C'est
C'est
quelque chose
une
qui te
aberration.
passionne, ça. Toi, tu as créé une école, l'autre école, c'est ça?
Alors, je ne l'ai pas créé. Je me suis associé à un fondateur, celui Lionel Sayat, qui est le créateur de l'école. Et je me suis associé pour l'aider à ce que cette école émerge. Et je suis plus un sparring partner pour lui en tant qu'associé. C'est pas moi
D'accord.
qui travaille tous les jours. Mais oui, ce sujet me passionne et il se trouve que je suis associé parce que je voulais justement créer une école. Parce que quelque part, tu vois, je me suis dit, ça me fait bizarre de passer mes journées, pour le coup, au travail, à essayer de réparer les grands et que les petits, on continue de leur mettre un fonctionnement qui ne soit pas le bon. Ce serait peut-être bien de démarrer dès l'enfance et de fonctionner différemment pour inciter chacun à se connaître, lui, plutôt qu'à tout connaître sauf lui. Et
Mais
le
est-ce que
problème,
ça veut dire que la singularité, elle est là dès l'enfance ou c'est une construction, c'est une recherche, quelque chose qu'on vise?
oui, effectivement, construction. Je pense que quand tu nais, je prends le sens du rythme, parce que c'est un exemple assez classique, mais je pense que quand tu nais, du fait que tu sois né d'une famille de musiciens ou pas, sur 2 générations, oui, des enfants assez naturellement présentent des aptitudes musicales plus fortes que d'autres. Même si certaines théories sont en train de dire, alors c'est au niveau des neurosciences, que finalement tous les enfants auraient tout et que la vie serait une longue désactivation de nos capacités. Mais bref, ça c'est un autre podcast, mais c'est une thèse qui n'est pas inintéressante. En tout cas, c'est prouvé, ça a été prouvé par certains chercheurs, qu'à la question qui est posée à un groupe d'enfants de 5 ans de résoudre des problèmes qui étaient relativement bizarres avec des solutions innovantes, la plupart y arrivaient. Tu leur poses 5 ans plus tard, tu as la moitié qui n'y arrive plus. Tu leur poses encore 5 ans plus tard à 15 ans, et il n'y a plus que 5% qui arrivent. Donc, la thèse la vie serait une longue désactivation de nos capacités, pas complètement idiote. Je pense qu'on a des capacités initiales, donc par exemple le sens du rythme, c'en est un. Ça ne veut pas dire pour autant que si la musique t'intéresse et te plaît, et que tu n'as pas de musicien dans ta famille et que tu n'es pas spécialement doué, tu ne pourras pas devenir un bon musicien. Donc je pense qu'on peut construire sa singularité au sens où on peut développer des talents. On peut voir des aspirations émerger. On ne sait pas forcément à 2 ans ce qu'on va faire de notre vie. J'ai presque envie de dire, à chaque instant, c'est ce qu'on va faire de notre vie, mais ce n'est pas pour autant que toute notre vie, on voudra faire la même chose. On est vraiment sur des choses qui évoluent. Le prisme personnel, à chaque seconde, à la fin de cette conversation, je ne verrai plus le monde de la même façon parce que je me serai enrichi de notre conversation. Donc, ce sont des choses qui bougent en permanence. J'aime bien la métaphore de l'autoroute. Tu nais, tu as un véhicule, tu es sur une autoroute. Donc, assez naturellement, avec ce véhicule et cette autoroute, Ben, on pourrait imaginer qu'est-ce que tu, où est-ce que tu vas pouvoir aller si tu es sur la 7, la 6, la 5, c'est pas les mêmes destinations. Mais à tout moment, il y a des embranchements dans la vie. À tout moment, tu peux développer les moyens de changer de voiture, de t'arrêter, pas t'arrêter, prendre quelqu'un en marche. Je pense que on a un vrai libre arbitre et que la singularité, on peut la construire et qu'elle est autant définie par ce que l'on est à la naissance de ce que l'on veut devenir. Question simple pour toi et pour tous, est-ce qu'on nous apprend à développer la personne que l'on veut devenir? Moi, ça n'a jamais été le cas dans ma vie. Et je ne crois pas que ce soit le cas dans la vie de beaucoup de gens. Donc, bien évidemment, eh ben, pourquoi l'école, ce n'est pas l'école de la singularité, c'est l'école de apprenez à savoir qui vous êtes et apprenez à vous doter des moyens de devenir celui que vous voudriez devenir. Ça serait beaucoup plus intéressant.
Dans ton livre, il y a une anecdote sur Jean-Pierre Belmondo et Bruno Kremer. En fait, Jean-Pierre Belmondo venait d'être refusé au cours Simon, et le directeur du cours Simon, qui est son fondateur, hein, je pense que c'est René Simon, lui avait dit qu'il ne ferait pas carrière en tant qu'acteur et qu'il fallait qu'il pense à s'enrôler dans l'armée. Et puis voilà que Jean-Paul Belmondo se retrouve avec Bruno Kremer à l'école de la Rue Blanche, et là, son professeur Pierre Dux, pareil, lui dit que bah, avec la tête qu'il a, et ben jamais on n'y croira s'il tenait une femme dans ses bras. Quand on connaît la carrière de Jean-Paul Belmondo, ça fait sourire. Et Bruno Kremer lui aurait dit, eh bien, bah, peut-être qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Et t'en donne un exemple de cette fameuse singularité. Et moi, je le rapprocherais d'une autre anecdote qui est assez connue aussi, c'est l'histoire de cette femme qui a vécu dans les années 20 et qui chantait de l'opéra. Alors, elle le chantait à ses amis, à sa famille, et personne n'osait lui dire qu'elle chantait faux. Donc, ma question par rapport à ces deux anecdotes, c'est comment, dans un cas, cette femme, eh bien, en fin de compte, elle n'a pas provoqué, elle n'a pas saisi les signaux qui faisaient que même si elle était passionnée par ce qu'elle faisait, elle n'était pas bonne dans ce qu'elle faisait. Et pourquoi Jean-Paul Belmondo, qui reçoit deux avis extrêmement négatifs de personnes référentes dans son métier, persiste? Qu'est-ce qui fait que nous, on va savoir là où on doit persévérer et là où on doit s'arrêter, quoi?
Ça, c'est super intéressant. C'est que, effectivement, d'abord, une critique constructive, c'est quoi? C'est finalement une critique qui a été utile à la personne à qui tu l'as mise. Donc, en fait, il y a qu'à posteriori, tu sais si elle était constructive ou pas. Parce
Oui,
qu'il
mais il
y a
faut
une
qu'on soit
notion.
prêt à entendre aussi. On n'est pas toujours prêt à entendre. C'est douloureux parfois quand c'est quelque chose qui nous passionne.
Ah, écoute, c'est ce que j'ai appelé un peu les obstacles tests et les obstacles panneaux indicateurs. C'est-à-dire que parfois, dans le cas de Belmondo, tu vois, c'était plutôt pour tester sa motivation. Finalement, et c'est intéressant aussi, on ne peut pas y arriver tout seul. En l'occurrence, dans l'anecdote, ce qui est génial, c'est que Bruno Kremer lui a vraiment ouvert une porte en disant, mais finalement, tu vas voir, c'est peut-être justement parce qu'on est différent qu'on a un truc que les autres n'ont pas. Et donc, quelque part, je pense aussi que... À beaucoup de moments de notre vie, on a besoin des nôtres, oui, des nôtres, lapsus révélateur, des autres et des nôtres, effectivement, pour assumer notre singularité. Donc là, c'était pour moi un obstacle de test. On testait Belmondo dans sa motivation, dans sa volonté, et bon, pas la peine de dire qu'il a largement démontré qu'il était motivé. Et puis parfois, je vais te prendre un autre exemple totalement trivial, on a des obstacles panneaux indicateurs. Récemment, je viens au bureau et je croise une personne en bas qui me dit, tiens, il est bizarre ton pull. Ok, bon, je dis, bah, il n'aime pas mon pull, je m'en fous. Je monte dans l'ascenseur, une deuxième personne me dit, il est bizarre ton pull. Bon, je dis, ils se sont donné le mot qu'ils vont tous m'emmerder avec mon pull. J'arrive et Chloé, mon assistante, à qui je fais éminemment confiance, me dit, waouh, faudrait plutôt que tu ailles te rentrer te changer, là. Donc là, je me dis, ok, tu vois, c'est intéressant ça, parce que je pourrais dire, non, mais moi, je sais que ce pull, c'est de la bombe, et en fait, c'est moi qui ai raison, et en fait, j'ai lancé une mode. En l'occurrence, je ne pense pas avoir un goût particulier pour la mode, je me suis dit, tiens, c'est vrai, il faut peut-être que je rentre me changer. Là, tu vois, c'est ce que j'appelle un obstacle, panneau indicateur, c'est qu'à un moment donné, la vie, les autres, ce qui t'arrive, les obstacles, te disent peut-être, tu devrais peut-être changer de chemin. Et ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas la clé, je n'ai pas la recette magique, il n'y a aucune recette pour te dire quand est-ce que c'est un test. Quand est-ce que c'est un panneau indicateur? En fait, tu seras le seul à avoir la réponse. Pourquoi? Ben, si justement je veux devenir un nouveau créateur de mode, faut sûrement pas que j'aille me changer. Il faut que j'affirme ma conviction. Et si tout le monde me dit que j'ai des goûts pourris, je devrais me dire, bon, ben, en fait, je suis probablement pas la bonne direction, mais pour autant, je voudrais quand même continuer dans la mode. Mais le truc, c'est que si on refuse en permanence ce que je propose, il faudra peut-être que je me pose des questions sur mes compétences et mes perspectives dans la mode. Donc, en
On
fait, c'est.
parle de compétences. Je me dis aussi que tu peux trouver donc ton unicité, alors ta singularité, c'est vrai qu'on va utiliser ce mot. Tu peux trouver ta singularité. Après, j'ai l'impression que pour, entre guillemets, réussir, parce qu'il faut aussi définir la réussite, pour réussir, parfois, il faut aussi avoir les codes de la société. Faut savoir communiquer, se vendre, aller chercher. J'ai l'impression que ceux qui réussissent dans la société, ce sont aussi souvent ceux qui ont la capacité d'aller chercher comment fait un introverti, par exemple, ou quelqu'un qui n'a pas ces capacités de communication. Il peut être très bon, et je pense
Je
à
peux t'en
l'art,
parler, hein.
notamment. Dans l'art, souvent, il y a des artistes qui réussissent parce qu'ils sont connectés, et d'autres qui sont extrêmement talentueux qui resteront inconnus toute leur vie.
Bah écoute, ça c'est très intéressant. D'abord parce que je suis introverti. En tout cas, d'ici que le MBTI, et puis je commence à me connaître un petit peu, donc je confirme. Et ensuite, parce que j'ai fait de la musique pendant des années, donc je vois bien de quoi tu parles. Je ne dis pas que mon talent n'a pas été reconnu et que si j'avais eu plus de réseau, j'aurais réussi. Je vois exactement de quoi tu parles. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses. Tu as commencé à dire connaître les codes. Et en fait, effectivement, connaître les codes, ça veut dire savoir où se trouvent les embranchements sur l'autoroute, où se trouvent les portes et les fenêtres par lesquelles je vais pouvoir passer. Donc, il est certain que quand tu veux accomplir quelque chose, il faut un peu avoir le mode d'emploi du domaine dans lequel tu veux réussir, parce que sans mode d'emploi, tu peux pas te balader de façon aveugle. Il faut être un peu éclairé et comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, oui, c'est évident. Mais c'est très différent de la notion d'être connecté et d'avoir un réseau. Il est clair que tous les fils d'eux peuvent très facilement, si je prends le cas d'un Mathieu Chédid par exemple, et du fils Souchon. Dans les deux cas, ils n'ont eu aucun problème à trouver une maison de disques et sortir un disque. Maintenant, sans aucune attaque du fils Souchon qui fait une carrière respectable par ailleurs, c'est sûr que Ours et Mathieu Chédid n'ont pas exactement la même carrière. Après, tu as le talent. Et il est tout aussi certain qu'il y a beaucoup de gens qui émergent aujourd'hui qui n'étaient pas le fils d'eux. Donc, je te dirais la chose suivante, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de connecté d'arriver à produire et faire connaître ses talents, mais c'est très différent du fait que ses talents soient bien réels et que le monde le réclame. Et donc, je dirais que la notion de singularité, c'est pas une notion de connexion ou pas, c'est que il faut apprendre à bien se connaître. Il faut écouter les signaux de la vie pour comme polir une pierre brute et arriver à vraiment trouver la substantifique moelle de ce que l'on est. Et ensuite, il faut effectivement avoir une certaine ténacité pour trouver les chemins sur lesquels on pourra justement faire valoir sa singularité. Et là, il y a une qualité à développer, c'est l'écoute. Tu as un cap, tu as une singularité, c'est un GPS. Tu as ton point de départ et tu as ta destination. Après, tu écoutes ton GPS, il va te faire passer parfois par des chemins hallucinants. Mais si tu es prêt à passer par tes chemins hallucinants, ce sera peut-être le plus court chemin que tu suivras. Et ça, qui t'apprend à écouter les signaux de la vie, à comprendre la nature des obstacles, à savoir quoi faire des critiques que l'on t'émet pour justement arriver à trouver le meilleur chemin qui te mènera à ton but. Ça, il faut l'apprendre à l'école. Ça, il faut l'apprendre à l'école. Comment écouter les signaux de la vie pour atteindre son but. Et donc moi, je prends les choses un peu comme un jeu. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, je sais pas si tu iras au cinéma ce week-end, mais crois-moi, tu n'iras pas voir un film où le héros a une intention et tout se passe exactement comme il souhaitait. Parce que tu vas t'emmerder à ce film et tu n'imagines même pas quoi. En fait, tu vas aller voir un film, comme le dit Aaron Sorkin, le scénariste, où il y aura le plus gros obstacle possible qui empêcheront le héros de réaliser son intention. Parce que c'est sa capacité à surmonter les obstacles qui donne un intérêt au film. Pourquoi ce serait pas vrai de notre vie?
Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu penses qu'il serait important qu'on évoque avant de passer au questionnaire?
Peut-être un petit mot sur le comment on conduit le changement. Parce que finalement, beaucoup de gens en écoutant ce podcast ou en lisant le livre peuvent me dire, C'est super, je suis d'accord, c'est de bonnes intentions. Mais quand je vais retourner au travail lundi matin, ça va pas se passer comme tu dis parce que ça se peut pas. Et c'est vrai. Donc la réalité, c'est en fait faire passer le message que chacun est un acteur du changement. Des gens qui sont dans des bassins d'emploi en pénurie, qui ont peu de diplômes pour le coup et qui sont très atypiques, qui ont une famille à charge, un loyer à payer, un crédit, tout ce que tu veux. Bah, l'injonction de prendre des risques, d'être eux-mêmes, c'est bien gentil, mais ils essaient juste de faire face. Pour autant, on sent bien que tous ces gens-là sont dans une situation qui confine plus à la survie que à la recherche du bonheur. Et donc, c'est vrai que quelque part aussi les inciter à trouver ce petit pas qu'ils vont pouvoir faire pour améliorer un petit peu leur situation à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire dans leur écosystème. C'est vrai que j'ai envie de les encourager à le faire parce que le plus grand risque pour eux, bah, c'est que rien ne change et qu'ils sachent exactement que, bah, en fait, ils vont pas se marrer, quoi. Et donc, il y aura évidemment pas de grand soir, ils vont pas se marrer du jour au lendemain, mais si par toute petite itération, ils pouvaient améliorer leur situation, il y a une chose dont je suis certain, c'est que les tentatives de changement sont virales. Et que quand on voit que quelqu'un essaye de changer quelque chose, et bien bizarrement, la nature humaine étant ce qu'elle est, on va quand même essayer de l'aider. Parfois, on n'ose pas le faire nous, mais quand on voit quelqu'un essayer de le faire, et ben on est presque, on a envie de l'aider, parce que quelque part, aussi, il fait quelque chose qu'on n'a pas osé faire. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Donc parfois, on peut très, très, très peu. Parfois, on peut beaucoup plus. C'est pour ça que ceux qui peuvent plus, à mon avis, se doivent aussi d'aider les autres. Et on ne doit pas tomber dans l'individualisme, parce que la singularité, ce n'est pas l'individualisme. Et donc, c'est vrai que une des choses clés pour moi derrière ce livre, c'est que on peut tous, chacun à notre mesure, changer un petit quelque chose. Et c'est parce qu'on le fera qu'on pourra petit à petit avoir une société dans laquelle je me reconnaîtrais davantage, qui serait une société où c'est un grand puzzle et chaque pièce du puzzle est utilisée. On n'en a pas utilisé trois et laissé 10 de côté, quoi.
Donc j'appelle en fait les millions d'auditeurs de ce podcast, car ils sont des millions, il faut le savoir, en fait à soit faire ces petites touches et ces petits pas, ou à peut-être soutenir ceux qui font ces petits pas et qui ont eu le courage de se lancer dans leur singularité. Qu'en dis-tu?
Exactement, ça me va très très bien.
Eh bien on va passer au questionnaire avec la première question. J'aimerais que tu me racontes une histoire de quelque chose qui a pu être vécu ou vu par les autres comme un échec et qui t'a particulièrement fait progresser.
Eh ben, je vais te parler de la musique, puisque je voulais être musicien. J'ai couru les maisons de disques pendant des années. J'ai donné des dizaines et des dizaines de concerts dans les clubs parisiens. Et comme tu ne seras pas surprise de l'apprendre, je n'ai pas réussi dans la musique. Sinon, tu ne m'interviewerais pas sur le sujet de ce livre, mais sur mon prochain concert, ma prochaine tournée. Et c'est un échec. Les autres l'ont vu comme un échec, pas de façon méchante, mais de façon tout à fait factuelle. Pour autant, c'est probablement à cause et grâce à cet échec que, en tout cas, je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je sais que je suis heureux. Et je suis heureux parce que finalement, derrière cet échec, j'ai pas voulu renoncer au pourquoi je voulais faire de la musique. Et j'ai réussi à transformer le travail qui est le mien aujourd'hui de façon à ce que tout ce qui comptait pour moi dans le fait de faire de la musique soit présent. Le fait de travailler en équipe, de ne pas avoir un quotidien répétitif, mais au contraire de pouvoir créer, de pouvoir inventer des choses, de pouvoir apporter quelque chose aux gens. Tout ça, c'était les raisons pour lesquelles je voulais faire de la musique. Et du fait de ne pas avoir réussi, ça m'a quelque part obligé à trouver d'autres chemins. Et ce que je viens de te dire sur le fait de ne jamais renoncer à son cap, mais d'être très ouvert pour écouter quel serait le meilleur chemin, bah, c'est ce qui m'a servi le plus, parce que sinon je ne pourrais même pas te dire ça ce soir. J'ai un job qui me rend heureux, et pourtant ce job, je ne savais même pas qu'il existait il y a 15 ans. Comme quoi, le meilleur chemin, on ne le connaît pas toujours. Par contre, je n'ai pas changé de cap, je n'ai pas changé mes valeurs. Et ce qui était important à mes yeux, ben, elle est toujours et j'ai la chance de pouvoir l'activer aujourd'hui.
Puis j'y vois une autre vertu, c'est quand on ose, on n'a pas de regrets en fait. On est allé au bout de ce en quoi on croyait. C'est du
Effectivement,
bien aussi, je pense.
j'aurais pas de regrets. Si ce n'est qu'aujourd'hui, évidemment, à mon âge, je referais ces mêmes choses différemment en me disant, ah, là, ça aurait marché.
Deuxième question. Est-ce qu'il y a une technique ou un outil pareil quand tu l'as découvert, tu t'es dit, waouh, c'est génial?
Oui, apprendre à s'écouter. C'est vrai que finalement, c'est ce que dit Charles Pépin dans son livre sur la confiance à soi. Il y a une grande différence entre le choix et la décision. Et derrière ça, il y a la notion d'apprendre à se connaître et de savoir s'écouter. Très souvent, les gens ne savent pas décider parce que finalement, quand on processe intellectuellement une situation, on en sait tellement peu, et déjà avec le peu qu'on sait, c'est déjà tellement compliqué, il y a tellement de pour, tellement de contre, que très souvent, on n'est pas capable de prendre une décision. Je vais prendre l'exemple d'un appartement. Finalement, c'est très dur de choisir un appartement. Parce que bah, ça t'engage un peu, c'est très dur de choisir ton amoureux ou ton amoureuse, et ainsi de suite. Et il y a une recette toute simple qui s'appelle écouter son cœur, et cette petite vibration, cette petite musique, qui est très particulière et qui surgit quand t'es dans le bon appartement ou avec la bonne personne. Et c'est
Tu
vrai
veux
que
dire
moi, j'ai.
que c'est une sensation savoir s'écouter? C'est quoi? Comment tu t'écoutes toi?
Moi, j'appelle ça une vibration, c'est que je situe plutôt au niveau du cœur, où à un moment donné, il y a quelque chose, que je sens une sorte de réjouissance, c'est une forme de. C'est le sourire à la Rochefort, tu sais, ce rictus que lui seul au monde avait. On sent qu'il allume, ça y est, il connecte, tu vois, c'est le Eureka. Il y a ce petit truc en lui qui vibre et on voit ce petit rictus. Et ben en fait, il va s'exprimer de façon très différente pour nous tous. Moi, j'ai maintenant identifié ce petit rictus et je peux m'inventer 1000 trucs pour me dire que c'est le bon appartement ou la bonne amoureuse. Mais à l'âge que j'ai, je commence à savoir quand est-ce qu'il y a cette vibration ou pas et que tout ce que je pense n'a pas d'importance à côté de ce que je ressens. Donc, à suivre son ressenti n'est pas, à mon avis, quelque chose d'inné. Enfin, ou plutôt, si, les enfants l'ont tous, mais on le perd. Et il faut le retrouver. Et ça, c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma vie et dans mon boulot. Très clairement, je prends mes décisions à 99% plutôt de cette façon-là. Alors que je suis dans un métier plutôt de nature intellectuelle, en fait.
Troisième question, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
L'humilité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le mal managérial, c'est un mal de. C'est une incompréhension, c'est un malentendu. Les managers croient qu'ils vont devoir tout savoir parce qu'ils sont dans une situation de commandement, pour prendre ce mot d'un autre temps, alors que finalement, c'est pas ça le management, c'est pas tout savoir. Le management, c'est au contraire arriver à créer. Une équipe, une atmosphère, des conditions qui vont permettre à chacun, et bien comme je te le disais, de faire valoir sa singularité et d'être le héros du moment face à une situation donnée, exactement, encore une fois, à l'image de tous ces films où tu vois des équipes où, selon la situation, il y a un des membres de l'équipe qui, à un moment donné, est utile. C'est ça, un bon manager. C'est quelqu'un qui sait créer cette équipe et qui a identifié le potentiel de chacun, qui aide chacun à identifier ses propres potentiels, sa propre singularité. Et donc, c'est un vrai responsable de casting, c'est un vrai chef d'orchestre, ça n'est pas monsieur je sais tout qui a réponse à tout. Donc, avoir l'humilité de dire je ne sais pas, de demander, d'écouter, c'est magnifique et c'est à mon avis ce qui manque le plus aux managers et les plus grands managers sont des gens qui savent écouter.
Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller à la lecture?
The Innovator's Dilemma, je t'avoue que c'est un livre qui m'a pas mal marqué. Non pas que tout le monde doive être un innovateur, parce que là aussi, la dictature du bien, du tous entrepreneurs, tous intrapreneurs, tous créateurs, non. Il y a des gens qui ont une âme d'exécutant, qui sont magnifiques exécutants, et Dieu merci, il faut des exécutants. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, malgré tout, c'est que ça casse un peu les codes du ne prenons pas de risques. Au contraire, c'est un livre qui montre plutôt que le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Mais qu'il faut conduire le risque intelligemment. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et le deuxième livre que j'ai moi cité, c'est Quiet. Quiet, qui est ça a été traduit en français par Le pouvoir des introvertis, je crois, qui est de Suzanne Cain, et qui explique justement que souvent les plus grands changements qui ont été opérés dans ce monde ont été opérés par des introvertis. Donc, ça, c'est beaucoup d'introvertis qui pensent qu'ils ont moins de chance que les autres. Moi, je crois que c'est un grand pouvoir d'être introverti. En tout cas, c'est l'avis de Suzanne Cain et son livre est exceptionnel.
C'est normal, t'es introverti, c'est pas très fair play de dire ça quand même.
Ben, les extravertis, pour l'autre.
Ah, c'est bon. Et tu viens de te mettre la moitié des auditeurs à dos, quoi. C'est
Ouais,
moche.
mais il faut savoir prendre parti dans la vie et
C'est
c'est
ça, je
aussi parce que, et c'est aussi parce qu'il y a des extravertis que, on va pouvoir faire quelque chose tous ensemble avec nos différences.
Ouais, d'accord, tu te rattrapes aux branches.
Voilà.
Et on va finir avec une citation. Alors, il y en a plein dans ton livre, je sais pas comment tu vas faire pour choisir.
Ah, c'est tout vu, vu ce qu'on s'est dit, je ne savais pas quelle choisir, mais effectivement, vu la nature de notre conversation, je vais choisir la citation de Kurt Cobain. Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. Je crois qu'elle illustre bien ce qu'on s'est dit durant ce podcast.
Je te remercie Alexandre pour clôturer cette interview. J'aimerais savoir. D'ailleurs, je vais prendre une phrase de ton livre. Les rêves sont des rampes de lancement. Et j'aimerais bien savoir sur quelle rampe de lancement tu es en ce moment.
En fait, j'aimerais pouvoir davantage contribuer au débat public finalement sur dans quelle société on a envie de vivre demain. Et c'est vrai que j'ai écrit ce livre dans l'espoir de pouvoir échanger justement avec tout le monde sur tous ces sujets pour apporter ma pierre à l'édifice parce que je ne vois pas clairement le projet de société qui nous est proposé et la rampe de lancement, c'est juste poser les bonnes questions quelque part pour aider, j'espère, à faire émerger les réponses et faire émerger la société dans laquelle on se sentira bien et nos enfants avec.
Merci beaucoup pour ton temps et puis pour cet échange qui était très riche.
C'est un plaisir, un vrai plaisir, sincèrement.
Dans cet épisode, je fais référence à Marguerite Dumont. C'était une aristocrate qui vivait dans les années 20 et qui était passionnée de chants lyriques. Elle organisait des concerts pour sa famille, ses amis qui n'osaient lui dire qu'elle chantait extrêmement faux. Je ne voudrais pas être une Marguerite Dumont. Alors j'ai bien des statistiques sur ce podcast, donc il y a à peu près 130 000 écoutes aujourd'hui pour 70, un peu plus de 70 épisodes, mais je ne sais pas si ce sont de véritables écoutes, est-ce que ce sont seulement des téléchargements automatiques, voilà, j'ai des doutes, sachant que la chaîne iTunes du podcast a très peu de notes, a pratiquement aucun commentaire, et même si je reçois de temps en temps des messages que je qualifierais de gratitude, je ne sais pas trop si ce podcast a un véritable intérêt pour les gens qui l'écoutent. Donc, je vous demanderai juste de prendre quelques minutes, d'aller noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter. J'ai besoin de faire le point, j'investis énormément de temps et d'argent dans ces interviews. Et j'ai besoin de savoir si ça vaut le coup pour vous. Show me some love, diraient les Américains. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. A priori, il y en a 3 de programmés, et puis le dernier sera le 5 décembre. Et puis là, je prendrai une pause, une assez longue pause, et je ferai le point sur tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous retrouve dès mercredi prochain.